VOA Afrique, les infos. Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, plus que 72 heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans le cadre des scrutins présidentiels et législatifs. L'heure est au dernier réglage pour en faire une réussite et ces derniers jours, le balai citoyen est monté au créneau. Ce mouvement qui était à la pointe de la mobilisation qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré du pouvoir a maintenant une caravane dénommée « Je vote, je reste » dans les rues de la capitale Ouagadougou. Plus de détails avec l'un de nos correspondants à Ouagadougou, Issa Napon.
Je vote et je reste. Plus qu'un projet, c'est un leitmotiv qui tient à cœur aux dirigeants de ce mouvement qui a été en pointe de l'insurrection populaire ayant chassé le président Blaise Compaoré du pouvoir et qui tient à une transparence totale du premier scrutin post-Compaoré. C'est dans un marché bondé que nous rencontrons le coordonnateur de la caravane, Rasmane Zinaba.
C'est d'inviter les populations à aller massivement dans les urnes et en cela, nous les invitons à sortir massivement et à aller voter. Voter, revenir à 18h à la fermeture des bureaux de vote pour assister au dépouillement parce que c'est un droit consacré à chaque électeur et à chaque citoyen burkinabé.
Juchés sur un bus, mégaphone au vent, les animateurs du balai citoyen haranguent la population pour assurer leur pleine participation au processus électoral devant notamment aboutir à l'élection du futur président du Faso.
Nous sommes des cibles.
Nous sommes des sentinelles.
Qu'est-ce qu'on fait?
On répond à la paix.
Pour le peuple.
Qui va lutter contre l'impunité, qui va lutter pour la justice et pour les pauvres aussi.
Ces tournées de sensibilisation et de veille citoyenne devront se poursuivre jusqu'à la période post-électorale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Bénin, à 3 mois de la présidentielle, le parti au pouvoir a fait choix de son candidat. C'est le premier ministre béninois Lionel Zinsou qui a été désigné pour briguer le fauteuil qu'occupe le président Thomas Boniyai. Des précisions avec Anastasie Tudièche.
La désignation de Lionel Zinsou vient confirmer un soupçon affiché dès sa nomination en juin dernier au poste de chef du gouvernement. Il est en effet le dauphin de Thomas Boniyai, élu le 6 avril 2006, puis réélu en 2011. Lionel Zinsou portera l'étendard du parti au pouvoir, les forces Kori, pour un Bénin émergent, à la présidentielle du 28 février 2016. La nouvelle a été confirmée à l'AFP par Bida Nouhoum, député et porte-parole des FCBE. Lionel Zinsou a été choisi pour son expérience et sa capacité à poursuivre l'œuvre entamée par le président Boniyai, a précisé M. Nouhoum. Zinsou, 60 ans, est un banquier d'affaires franco-béninois, neveu de l'ex-président béninois Émile Derlin Zinsou. Son brillant parcours dans le monde des affaires comprend entre autres la direction de PAI Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement d'Europe, et la banque Rothschild. Au plan politique, Lionel Zinsou a été conseiller spécial auprès du président béninois de 2006 à 2011.
Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger. 18 villageois ont été tués par des membres du groupe djihadiste à Rogom, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria. D'après les autorités locales citées par l'AFP, 13 personnes ont été tuées par balles, 3 autres ont été égorgées et 2 sont mortes calcinées dans l'incendie de leur maison. 11 personnes ont également été blessées. L'attaque s'est produite mercredi soir. Près de 100 habitations auraient été brûlées. Les assaillants seraient venus du Nigeria voisin. À Mali, arrestation dans la banlieue de Bamako de 2 complices de l'attentat de l'hôtel Radisson Blu. Ils ont été remis à la justice afin de faciliter le reste de l'enquête. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Depuis l'attentat de l'hôtel Radisson, les forces de sécurité étaient à pied d'œuvre. Elles menaient des patrouilles de jour comme de nuit partout à Bamako et dans les environs. C'est ainsi que 2 présumés complices des auteurs de l'attentat perpétré à l'hôtel Radisson Blu ont été arrêtés par les forces spéciales maliennes ce jeudi. Cela grâce à la coordination des différentes forces de renseignement maliens et grâce à la collaboration avec certaines bonnes volontés. Tous ceux-ci ont permis d'appréhender Seydou Djeptile et Adama Maïga, respectivement à Missabougou et à Sangarebougou, Marseille. Selon des sources sécuritaires, les auditions des 2 suspects qui vont commencer doivent permettre d'apporter plus d'éclairage sur les motivations des auteurs de l'attentat terroriste, lequel acte a fait 22 morts. En tout cas, pour ce qui est de l'enquête, les armes de crime ont été remises à un service spécial d'éminissement afin de déterminer leur provenance. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Médias au Burundi, le directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kabouaré, se dit étonné de la demande de son extradition formulée par le procureur général du Burundi dans l'affaire du putsch manqué du 13 mai dernier à Bujumbura. Étonné parce que M. Kabouaré affirme qu'il n'est pas un fugitif. On l'écoute.
Ça m'a beaucoup étonné d'entendre que il y a une demande d'extradition. Normalement, on fait une demande d'extradition pour quelqu'un qui a fui. Moi, je n'ai pas fui, je suis parti régulièrement du Burundi. Depuis le mois de mai dernier, donc à la date du coup d'État, jusque dernièrement, je suis sorti et je suis rentré dans le pays au moins 4 fois. Donc, si j'avais eu des raisons ou des craintes par rapport à des choses, j'ai eu au moins 4 fois l'occasion de rester à l'étranger. Je vais continuer mon travail de journaliste. On va voir la suite. Moi, je continue, que je sois Burundi ou que je ne sois pas au Burundi. Je suis pour le moment dans un stage prévu de longue date. Moi, je continue. Voilà.
Antoine Kabouaré, joint à Anvers, en Belgique, par Eric Manira Kiza. Tournée du pape en Afrique, au Kenya, le pape François a exhorté aujourd'hui les jeunes Kenyans à résister de toutes leurs forces aux maux du tribalisme et de la corruption qui menacent leur société. S'adressant à des dizaines de milliers de jeunes garçons et filles rassemblés au grand stade de Kasarani, le souverain pontife a aussi souligné que la corruption qui gangrène le Kenya et de nombreux pays d'Afrique est une route qui ne conduit pas à la vie, mais à la mort. Ouganda, le Parlement a adopté une loi controversée sur les ONG à quelques heures de l'arrivée du pape François dans le pays. Les associations de défense des droits humains dénoncent une loi qui, disent-ils, entrave le travail des ONG. Nouvelle vague d'assassinats en Centrafrique, selon Human Rights Watch, qui tire la sonnette d'alarme à quelques jours de la visite du pape. L'organisation de défense des droits humains basée à New York interpelle la communauté internationale pour que le passage du souverain pontife à Bangui cristallise la paix. Écoutons l'ampleur des dégâts décrits par Louis Mudge. Il est chercheur de la division Afrique de Human Rights Watch à Nairobi.
Toujours, c'est les civils qui souffrent. Et ça compris des gens âgés, des gens dans la situation d'handicapés qui ne peuvent pas fuir. Et il y a aussi des femmes et des enfants qui compris les victimes. C'est toujours les civils qui sont en train d'essayer de prendre fuite pour aller dans un site de déplacement qui sont attrapés par un groupe ou bien par d'autres. D'ailleurs, nous avons compté plus de 1000 maisons qui viennent d'être brûlées depuis le 26 septembre. Et ça, le fait que les maisons continuent d'être brûlées, ça sera très difficile d'établir un nouveau de réconciliation lorsque les maisons sont en train d'être détruites.
Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. Gabon, plusieurs hauts fonctionnaires ont été entendus ou placés en garde à vue cette semaine dans une affaire de trafic de bois précieux. Parmi eux, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, Nelson Mason, devenu conseiller politique du président Ali Bongo Ondimba depuis le remaniement ministériel de septembre. M. Mason a été entendu par les enquêteurs dans son bureau de la présidence de la République.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et puis la France a rendu ce vendredi un hommage solennel et émouvant aux 130 morts et aux 350 blessés des attentats de Paris du 13 novembre, revendiqués par le groupe État islamique. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État français François Hollande. Quelques 2600 personnes, dont de nombreuses familles de victimes et aussi des blessés, ont participé à cette cérémonie nationale dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides, où repose l'empereur Napoléon. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a par ailleurs pour la première fois laissé entendre ce vendredi que des forces du régime syrien pourraient être associées à la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Dans une déclaration à l'AFP, Laurent Fabius a précisé qu'une participation de l'armée syrienne dirigé par le président Bachar al-Assad à la lutte contre l'EI, ne peut être envisagé que dans le cadre d'une transition politique. Et pour terminer, le président de l'Eurogroupe a agité aujourd'hui dans la presse le spectre d'un mini-Schengen constitué autour d'une poignée de pays que, s'il n'y a pas renforcement de la sécurité des frontières européennes. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.